Donc c'est juste un symbole en fait que Dieu va toujours pourvoir pour toi. Fait que c'est la chanson de base, c'est que Dieu va toujours être là pour toi, va toujours te donner quelque chose. Peu importe le moment, si t'en as besoin, il va toujours être là pour toi. Fait que c'est vraiment plus une symbolique religieuse plus qu'autre chose. Donc c'est ça. Là.
Mais c'est
vraiment...
important. C'est important d'avoir espoir, foi, et toujours on se rejoint dans cette même dynamique. Il faut terminer le programme, donc je vous demande de dire les derniers mots d'invitation à vous entendre, parce que vous avez beaucoup de qualités et j'aimerais que tout le monde vous entende. C'est quoi un dernier mot pour...
Ok, ben merci de base, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Moi c'est Jevon, en ce moment je lance une petite pause de musique, éventuellement je vais revenir, là en ce moment j'ai beaucoup de unrelease, j'ai énormément de sons en fait, mais je continue à innover, je continue à changer ma sauce pour créer un wave qui est vraiment un big wave, fait que c'est pas mal ça, c'est Jevon.
Ben, comme Jevon l'a dit, ben, je vous remercie pour nous avoir accueillis ici ce soir, c'était vraiment nice pour première expérience. Puis moi, c'est Asujet. Il y a le EP qui est sorti sur toutes les plateformes. Impression. Allez, get ça now. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Beaucoup de variétés. Nouveaux sons, nouvelles sauces. So, soyez à l'affût, man. Gang.
Les derniers, non, le moindre. Ah, je rigole. Mais pour vrai merci. Comme les deux l'ont dit, merci à vous de nous avoir invités à ce podcast, à cette radio. Je vais me représenter encore, mon nom c'est Melvin, The Kid from the X, un artiste émergent on the way, up next. J'ai deux chansons sur les plateformes, 80 mesures qui viennent de sortir ce mois-ci, et La Zone avec Asujet, justement. Et j'ai plein de trucs à venir. Je viens de sortir un truc dont il faut me laisser le temps un peu, mais comme on se dit tous, le meilleur est à venir, et puis. C'est ça le slogan, man. C'est ça,
ça va
le
bien
slogan.
Aller. Et yes, ta serviette dans ta tête, c'est un bon esprit.
j'ai fait du sport tantôt, donc il fallait que je garde.
C'est ça. Yes, je pensais que c'était l'esthétique de ton esprit. C'est bon, c'est
ouais.
Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ah,
et cet espace est toujours ouvert pour vous. Si on va vous inviter à nouveau. Vous allez nous demander de venir aussi quand vous sortez votre disque. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'audience de Sekaya. Merci à Posé, à Mathias, à Daniel. Tu veux dire le mot?
Ben, c'est sûr que les gars vont revenir parce que pour moi, on a encore beaucoup de discussions à se dire. Tu sais, le rap, c'est pas simplement une heure qu'on peut en parler. On peut en parler des heures et des heures. Puis c'est surtout aussi que vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup d'écriture, beaucoup de poésie. Puis faut qu'on en parle, c'est votre réalité.
Merci!
So,
bow!
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire, cette semaine.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Sekaya 88.3 FM à Québec et vous écoutez Dignité Noire, le magazine des communautés noires d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez également nous suivre en direct ou en rediffusion au www.sekayafm.org et sur notre page Facebook Dignité Noire. Avec l'application Sekaya FM pour téléphone intelligent, soyez connectés à votre radio et à votre magazine à tout moment, où que vous soyez. Je suis Magloire Pembi et c'est un plaisir que de vous retrouver ce lundi 27 septembre 2021. Bienvenue à tous. Au sommaire de Dignité Noire aujourd'hui, Souleymane Diallo de Jeunesse Interconnectée et Fusionnée d'Afrique nous parle du Festival international panafricain qui a lieu du 2 au 10 octobre dans la commune de Ngueror, à 70 km de Dakar. Ce festival est consacré aux enjeux de l'unité africaine. Ce sera notre deuxième sujet d'émission. La manifestation Art et lutte contre le racisme et le profilage racial a eu lieu hier dimanche 26 septembre 2021 à Québec. Vous entendrez les participants s'exprimer à notre micro. Mais pour commencer, je passe la parole à Oumou et à son invité. Ensemble, elles vont parler de la réussite scolaire pour les enfants et élèves issus de l'immigration à Québec.
Bonjour Magloire, merci. Donc, il y a deux semaines, ma chronique portait sur le livre « Noir sur surveillance » de Robin Ménard, en particulier le dernier chapitre du livre qui a pour titre « Le racisme anti-noir dans le système scolaire ». Je me suis dit que ça serait intéressant de poser des questions à un enseignant, particulièrement aujourd'hui à une enseignante, Dayani. Car oui, la semaine dernière, j'ai énoncé des « Savez-vous que ?». Je ne vais pas les reprendre parce que c'est un peu long. Donc, comme l'a dit Magloire, je vous invite à aller sur la page Facebook de Dignité Noire ou bien sur le site de CKIFM pour les réécouter. Le but de Robin Ménard, l'auteur, l'autrice du livre, c'est qu'on soit mieux outillé. Donc je me suis arrêtée sur des faits il y a deux semaines. Et maintenant, justement, on va parler d'outils. Notre invitée du soir, Dayani, est professeure depuis 2008. Elle vit actuellement à Montréal. Donc, Dayani.
Oui.
Bonjour Dayani, comment ça va?
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va, merci. Donc, merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Je le disais tantôt, tu es professeure depuis 2008. Est-ce que
oui.
Tu pourrais te présenter?
Oui, avec plaisir. En fait, merci tout d'abord de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis Dayani. Je suis enseignante depuis 2008. J'ai fait mon bac en enseignement du français langue seconde. Donc, j'ai eu des stages en classe d'accueil. J'ai travaillé en immersion. J'habite Montréal. Je suis présentement enseignante de sixième année dans une école de Montréal, dans un quartier multiethnique. Et je suis aussi maman de trois jeunes enfants.
Super, merci Dayani pour ta présentation. Donc moi, la première question que j'ai pour toi, c'est comment les parents peuvent-ils accompagner les enfants pour qu'ils réussissent à l'école?
Moi, ce que je conseille toujours aux parents lorsque je les rencontre, c'est de s'impliquer, donc d'être au courant de ce que son enfant fait à l'école. Je crois que c'est la clé. Donc, de lire les mémos que son enfant amène à la maison, de poser des questions à son enfant. Et si jamais vous trouvez que, bon, votre enfant n'a jamais vraiment rien à dire, de contacter l'enseignant et l'enseignante et de voir que c'est un travail de collaboration entre les parents et les enseignants. Souvent, les parents, parfois, les parents attendent à la première rencontre des parents pour dire, OK, mais voici ce qui passe avec mon enfant, ça ne fonctionne pas. Voici ce que j'ai remarqué. Mais je veux dire, c'est la communication, c'est la clé. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui vous chicote ou une question sur comment va votre enfant, de ne pas hésiter à contacter les enseignants. Donc, pour moi, ça, c'est un des premiers trucs. Ensuite, évidemment, de développer une bonne routine le soir à la maison et de prioriser justement le travail scolaire, que ce soit les devoirs ou même simplement la lecture. C'est vraiment aussi quelque chose que je suggère à mes parents. Et moi, je suis avec des plus vieux, donc je suis en sixième année. Et parfois, les sixième année, ils ont tendance à dire « Oh, on n'a rien fait » ou « Je l'ai déjà terminé, pas besoin de vérifier, je suis autonome ». Mais de temps en temps, ça fait quand même du bien d'aller jeter un coup d'œil sur les devoirs et les leçons de nos grands enfants.
Super, c'est super intéressant ce que tu dis en disant qu'il faut vérifier les devoirs, et tu as parlé aussi un peu de lecture, mais je reviendrai un peu
déçue.
D'après le livre de Robin Ménard, les enfants noirs réussissent moins bien à l'école. Que penses-tu de cette phrase?
Moi, ce que je pourrais dire, évidemment, je me prononce en tant qu'enseignante de Montréal. Donc, mais les classes d'élèves que j'ai eues étaient vraiment multiethniques et diversifiées. Donc, c'est sûr que ma réponse va peut-être différer de celle d'une enseignante ou d'un enseignant d'un quartier très, très, très éloigné et peut-être plus homogène. Moi, j'ai remarqué que, honnêtement, il n'y a pas, je pourrais pas faire une moyenne des élèves, par exemple, noirs qui réussissaient mieux que les autres ou moins bien. Je veux dire, j'ai des élèves de toutes les origines qui ont des difficultés tout autant que des succès. Donc, mes premiers et derniers de classe, j'ai pas remarqué vraiment qu'il y avait que c'était plus fréquent chez les enfants noirs que chez les enfants d'autres origines ou les enfants blancs. La seule chose que j'ai observée, c'est une certaine réticence chez certains parents de certaines cultures parfois, qui vont peut-être être un peu plus méfiants par rapport à ce que les enseignants ou plutôt les spécialistes vont amener. Si je donne par exemple des services d'orthopédagogie, j'ai trouvé que chez certaines communautés, parfois les parents ont tendance à se braquer un peu contre cette suggestion en disant ah ben non, mon enfant, on dirait qu'ils prennent ça comme un signe que leur enfant a des problèmes psychologiques ou mentaux ou quelque chose, et ils sont un peu plus réticents et méfiants, je dirais, envers certains services que les écoles peuvent offrir aux élèves, qui pourtant sont vraiment des outils pour ces élèves-là. Donc, c'est ce que j'ai un peu remarqué, que parfois, lorsqu'on amène une offre de service, de soutien linguistique, par exemple, bien, les parents, il y a certains parents de certaines communautés vont un peu voir ça comme un signe qu'ils ne sont pas des parents compétents, on dirait, là, c'est ce que j'ai un peu remarqué. Okay. Donc, mais j'ai pas vraiment fait une étude. C'est ça. J'ai des élèves noirs qui sont les premiers de classe aussi, là.
OK, super. Et quand tu parles aux parents et qu'ils disent que par rapport à ce que tu viens de dire sur la compétence de leurs enfants, etc., comment est-ce que tu t'y prends, en fait, pour leur expliquer? Ou est-ce que c'est l'orthopédagogue, comme tu le disais tantôt, qui parle aux parents, ou est-ce que c'est toi?
Ces rencontres-là sont faites en présence de l'enseignant et des spécialistes, que ce soit orthopédagogue, psychoéducateur, orthophoniste. Donc, c'est en lien plus qu'on se complète. Ce que moi, j'observe en classe, eh bien, dans le fond, le spécialiste peut renchérir et signifier aux parents que leur enfant bénéficierait grandement de ces services-là.
OK, merci. En fait, je voulais aussi parler des représentations dans les écoles, parce que j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle Faire école, de Capucine Esther Beauchemin, qui dit
D'accord,
en fait.
Je le connaissais pas. Je vais prendre en note.
Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, on parle un peu beaucoup de santé mentale dans les écoles, et puis elle a enseigné aussi à Montréal. Mais elle explique aussi que les enfants réussissent mieux quand ils ont des représentations dans les écoles, et surtout les enfants racisés, ils réussissent mieux quand ils ont des personnes enseignantes qui leur ressemblent. Est-ce que toi, tu pourrais dire quelque chose là-dessus? Est-ce que tu as remarqué aussi cet effet positif quand on est une personne racisée avec des enfants racisés?
Honnêtement, je pourrais pas dire si c'est à 100% un indice qu'ils vont réussir mieux, mais je vois l'étincelle dans leurs yeux quand on leur parle de trucs qui les rejoignent. Je prends par exemple le fait que, je sais qu'on ne voit pas la radio, je suis Sri Lankaise, adoptée québécoise par des parents québécois, mais mon conjoint est haïtien et j'ai beaucoup de ma belle-famille, des amis proches aussi qui font partie de la communauté haïtienne, donc c'est quand même une culture qui est proche de moi. Donc quand je fais des allusions ou que je parle de certains trucs avec mes élèves haïtiens, je sais qu'ils sont comme un peu surpris, et ça leur fait un petit quelque chose de plus de voir que OK, elle en sait un peu plus par rapport à ma culture. Sauf que pour moi, ce que je trouve, c'est que lorsqu'on est enseignant en 2021 dans des classes, des milieux multiethniques, pour moi, ça va de soi qu'on doit avoir une certaine ouverture, même en étant un prof dans une école éloignée de Saint-Jérôme. Je pense qu'il faut qu'on amène la diversité, qu'on la mette de l'avant, qu'on montre à quel point notre société, elle est riche, elle est qu'on apprend en échangeant avec les uns les autres. Donc, c'est ce que je remarque, c'est que quand même, il y a quand même de plus en plus d'enseignants jeunes qui trouve important de parler de cette diversité-là, de l'inclure, d'apprendre des élèves, parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on est enseignant, enseignante qu'on détient la clé de tout. Donc, de se montrer ouvert aux différences, pour moi, c'est un atout. Mais c'est certain que certains anciens profs sont peut-être, je pourrais dire, un petit peu moins aptes ou bien... pas aptes, mais je veux dire, sont peut-être moins portés vers le changement et l'ouverture que la nouvelle génération. C'est ce que je trouve.
OK. Merci d'avoir répondu à cette question. Donc, maintenant, comme je parle d'outils, etc., moi, dans le livre de Robin Ménard, comme je le disais il y a deux semaines, il y a souvent des enfants racisés qui sont victimes de harcèlement et de racisme. Est-ce que tu peux nous donner des outils ou des choses à faire si on a un enfant ou on connaît un enfant qui est victime de harcèlement ou de racisme à l'école?
De contacter tout de suite l'enseignante, si c'est l'éducatrice de service de garde et tout. Donc, vraiment de contacter pour avoir un bon portrait de la situation et de ne pas laisser les choses s'envenimer. Donc, quand il y a une situation qui se passe aussi, je veux dire, même moi, dans ma classe, dans mes groupes, ça m'est déjà arrivé qu'il y a une situation qui se passe avec certains élèves. Je contacte les parents automatiquement. Puis d'en parler et de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait par rapport à cette situation-là. Comment est-ce que l'enseignant va faire un retour aussi en classe ou avec les élèves concernés, avec les psychoéducateurs, pour être sûr et certain que ça ne devienne pas justement une situation d'intimidation pure et pure et dure, là. Donc de contacter l'école et d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment, là, dès les premiers signes.
OK. Merci. Là, je vais parler un peu de profilage racial, parce qu'on en parle aussi dans le livre. Donc, selon le rapport de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à Québec, les jeunes racisés font l'objet d'une surveillance plus intense que celle exercée par le personnel scolaire sur les autres élèves. La commission recommande que les commissions scolaires dispensent une formation sur la discrimination et le profilage racial à l'intention du personnel enseignant et non enseignant. Moi, ma question, c'est y a-t-il de la prévention sur le profilage racial qui est fait dans les écoles?
Je peux parler pour les milieux dans lesquels j'ai enseigné. Je pourrais dire non. Honnêtement, j'ai pas eu cette formation-là. J'en ai pas entendu parler non plus, donc je pourrais pas dire. C'est sûr que quand on a des formations par rapport à des aspects culturels, de diversité et tout, oui, on aborde les différentes cultures et l'ouverture et tout. Sauf que en termes de profilage racial, strictement parlant, pas à ma connaissance.
OK, merci. J'ai encore deux petites questions.
Mm-hmm.
Le Canada et le Québec sont une terre d'accueil pour les immigrants. Il y a de nombreuses personnes qui émigrent chaque année. Ces personnes immigrent avec des enfants qui se retrouvent dans des classes d'accueil. Moi, j'aimerais savoir, en tout cas, je ne sais pas si tu pourras répondre à ma question, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que l'école met en place pour accueillir ces enfants?
En fait, les enseignants de classe d'accueil souvent vont travailler avec un agent, je suis pas certaine pour le titre exact, mais je pense que c'est un agent de liaison communautaire. Là, je parle encore une fois pour Montréal, je peux pas dire comment ça se passe pour les autres régions, mais je sais que dans l'école où j'enseignais l'an dernier, l'agent de liaison était vraiment présent lorsque des nouveaux arrivants arrivaient, se présentaient dans les classes et il travaillait avec les familles aussi pour leur demander, leur expliquer comment fonctionne le système d'éducation québécois et leur offrir des services, regarder si côté ne serait-ce que juste vestimentaire, est-ce que cette famille a un besoin pour des habits divers, pour des services de banque alimentaire, d'emploi et tout. Donc, c'était vraiment une personne qui avait un rôle important. Et on regarde aussi, évidemment, avec les spécialistes de l'école pour offrir des services supplémentaires en soutien linguistique et autres pour faciliter leur intégration. Et évidemment, avant la COVID, bon, on avait aussi des activités avec des classes régulières pour que justement ces élèves-là soient fassent partie de la communauté de l'école aussi, leur donner plus de repères. Mais bon, là, depuis la COVID, on ne peut plus mélanger les groupes, donc c'est vraiment dommage. Mais c'est un peu l'étendue des services qui sont proposés aux élèves nouvellement arrivés.
Super, c'est super intéressant. Merci, Dayani. Ben, moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais sur ta page Instagram, parce que c'est là où je t'ai connue par rapport au livre.
Oui, c'est vrai.
Et pourquoi c'est important que... En tout cas, pourquoi c'est important pour toi que les enfants lisent et aussi un peu de parler de représentation?
Ben oui, c'est ma passion. Merci. La littérature jeunesse diversifiée, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'adore, que je mets de l'avant vraiment beaucoup dans ma classe, dans mes classes. Et ça a commencé en fait avec mes enfants. Donc, je voulais offrir une bibliothèque à mes enfants pour qu'ils se sentent vus, me représenter, qu'ils puissent interagir avec, ben, découvrir leur environnement en fait en se voyant dans les livres que je leur proposais. Puis ensuite, ben, j'ai transposé tout ça dans ma classe. Donc, quand je regardais mes élèves qui étaient marocains, libanais, haïtiens, sénégalais et tout ça, donc je me disais, je dois leur proposer des livres où est-ce qu'ils vont se retrouver, se reconnaître, et pas seulement des livres avec, je sais pas moi, Hakim du fond de la savane, où est-ce que vraiment c'est pas des choses auxquelles les élèves se rapportent. Donc, de leur proposer, moi, ce que je voulais, c'est vraiment leur proposer des livres, des albums, où est-ce qu'on leur met de l'avant des personnages racisés qui font des actions de leur vie quotidienne. Donc, que leur origine et que leur culture ne soient pas nécessairement le point central de l'histoire, pour qu'ils se sentent justement intégrés, et aussi offrir cette diversité-là à mes élèves qui sont blancs. Donc, pour les exposer le plus possible à de la diversité, pour que finalement, ça vienne... C'est justement de ça crée des belles discussions et tout, et on parle de tolérance, d'ouverture d'esprit. Donc tout ça, là, ce sont des points que je mets de l'avant dans mes classes et aussi à la maison. Et c'est pour ça que je tourne des petites vidéos, des capsules sur mon Instagram. J'adore ça. Ça me permet aussi de découvrir des différents auteurs et autrices. Et toutes sortes de livres, et mon portefeuille saigne parfois. Mais c'est pour la bonne cause. J'adore ça. Et j'adore aussi en échanger avec mes collègues pour qu'eux aussi, ils intègrent plus de diversité littéraire dans leur bibliothèque de classe et tout. Donc, voilà ma passion pour la littérature jeunesse.
Merci, Dayani. C'est vraiment super. Là, j'ai Magloire qui a une question. En fait, Magloire, c'est l'animateur de l'émission, qui a une question pour toi.
Parfait.
Bonsoir, Maman Dani.
Oui, bonjour.
Je vais revenir un peu sur le sujet abordé tout à l'heure à propos de l'intimidation, du harcèlement. Oui. J'aimerais savoir, dans les écoles, cette problématique, est-ce que c'est quelque chose qui est une urgence absolue, ou c'est quelque chose qu'on aborde avec... Avec un certain dilettantisme, parce que il s'est passé il y a quelques années une histoire malheureuse, un jeune homme qui disait à sa mère qu'il était harcelé, et il a demandé à sa mère, je pense que c'était un jeune homme si je ne me trompe pas, il a demandé à sa mère de venir le chercher, et sa mère a vu comment son fils a été agressé à la sortie de l'école, et cet enfant est décédé. Et pourtant, il y avait des appels, il y avait des signaux qui étaient lancés. Est-ce qu'au niveau des écoles, il y a une politique du genre tolérance zéro à ce qui concerne intimidation et harcèlement?
C'est sûr que ça dépend toujours des écoles, des directions aussi, mais moi, je dirais que les dernières écoles où est-ce que j'ai travaillé, c'est vraiment tolérance zéro. Donc, dès qu'il y a un incident, que ce soit de l'intimidation en parole, que ce soit aussi de l'intimidation sur les réseaux sociaux, même si tout cela se passe à l'extérieur des heures de l'école, nous, on intervient. Je sais aussi que la présence des psychoéducateurs, des PES dans les écoles, justement, ils sont très, très, très impliqués dans cette cause-là, donc de l'intimidation, tout ce qui est violence aussi. Je pense que de plus en plus, on a des outils pour faire face à ces situations-là. Puis, là, encore une fois, je parle pour les écoles où j'ai travaillé, mais moi, si un élève vient me voir et me dit, madame, telle personne me traite de nom à la récréation, ça continue et tout, et évidemment que moi, j'en parle, encore une fois, avec la littérature jeunesse, on en discute en classe, et dès que moi, je suis témoin ou que j'entends un commentaire qui est lié avec l'intimidation, moi, j'agis automatiquement. J'en parle aussi avec mon TES, mon éducateur spécialisé, dans le fond. C'est pris en charge. Mais, comme je l'ai dit, c'est sûr que ça dépend des écoles, mais je pense que de plus en plus, puisqu'on voit des événements où est-ce qu'il y a eu des conséquences désastreuses, comme la situation dont vous venez de parler, ben c'est sûr que je pense que les écoles sont un peu plus investiguer dès les premiers signes d'intimidation. Encore une fois, je peux pas généraliser, mais ce que je vois autour de moi, c'est vraiment pris en charge. Là.
Et en quoi consiste l'intervention de l'école dans ce cas-là, par rapport à l'agresseur et par rapport à l'agressé?
Exact. Ça dépend toujours de la gravité. Si c'est de l'intimidation, des insultes, une situation où est-ce qu'il y a eu peut-être de la violence physique, c'est sûr que les deux personnes sont rencontrées. Ensuite, on veut avoir les deux versions. Si le TES ou le psychoéducateur est rencontré, alors là, lui aussi va avoir ou elle aussi va avoir une rencontre avec les élèves concernés. Évidemment que si on se rend compte que c'est clairement un cas d'intimidation avec un intimidateur et une victime, la victime, elle va être soutenue pour parler de ce qu'elle a vécu et tout. Mais l'intimidateur va être aussi souvent pris en charge par soit un psychoéducateur ou une psychoéducatrice. Les parents vont être mis au courant rapidement. En fait, moi, dès qu'il y a une bataille ou un incident à la récré, avec des paroles blessantes, avec des gestes violents, moi, c'est sûr que j'écris des courriels aux parents dès que ça se passe. Mais si on voit que ça se reproduit, ben il y a un dossier qui est monté. Ça peut aller jusqu'à la suspension. Ça peut aller aussi avec des séjours en classe spéciale aussi, ou dans un groupe spécial avec une formation en habileté sociale pour l'enfant qui est intimidateur. Donc, il y avait quand même plusieurs paliers avant. Évidemment, si c'est quelque chose qui est extrêmement grave, il y a l'expulsion de l'école, tout simplement.
OK. Merci beaucoup, Dayani, d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment très éclairant. J'espère que ça va pouvoir aider aussi quelques parents.
Je l'espère aussi.
Donc, merci. Merci encore. Et puis, à très bientôt.
Merci.
Je vous en prie. Donc, moi, ce que je conseille aussi, c'est un autre outil que je recommande, c'est le livre « Réussir ses années d'école » des éditions Larousse, qui regroupe 10 fiches techniques à faire avec son enfant. Comme c'est expliqué dans la notice, l'école n'est pas un long fleuve tranquille pour tout le monde.
Même. Non, c'est vrai. Tout à fait. Mais je vous remercie à vous. C'était vraiment une belle expérience. Merci.
Merci, Dayani.
J'invite honnêtement les gens à venir me parler sur Instagram. Ça va me faire plaisir de suggérer tous les livres dont je parle et que j'aime présenter aux gens qui m'entourent.
Merci, Maman Dayani, et à la fois prochaine.
Merci, bonne fin de soirée.
N'hésitez pas à suivre Maman Dayani sur Instagram, Maman Dayani, DAYANI.
On va dire aussi merci à Oumu pour sa chronique, toujours aussi inspirante et informative. Et n'hésite pas à revenir quand tu veux à
Oui, la semaine prochaine, hein, j'ai un autre livre, un autre sujet sur le racisme, avec un autre invité.
Avec plaisir. Alors, vous êtes sur CKIA 88.3 FM à Québec. Je ne l'ai pas présenté au début, mais c'est notre sémillant Brice qui assure la mise en onde. Rendons-nous à présent à Dakar pour retrouver Souleymane Jules Diallo. Il nous parle du Festival international panafricain de Ngueror. On a un petit écho, le temps que Brice règle la situation. Festival international panafricain.
Donc, en fait, nous sommes partis d'un constat qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels qui sont engagés sur plusieurs fronts et qui traitent de thématiques différentes. Donc nous avons vu que ces groupes sociaux-là ont tendance, par une démarche isolée, à porter en tout cas certaines initiatives. Et nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place un cadre qui serait en capacité de mobiliser tous ces acteurs-là et de nous permettre ensemble de réfléchir en vue d'être plus efficace et aussi en vue de pouvoir vraiment impacter sur le continent et au niveau de sa diaspora. Donc c'est en 2015 que nous avons initié ce cadre, que nous avons dénommé le Festival international panafricain, qui est un cadre de réflexion, de débat, mais aussi de proposition, parce que nous avons vu que dans nos États, il y a beaucoup de difficultés et que beaucoup d'acteurs sont engagés dans le processus. Donc 2015, 2021, nous sommes à la 6e édition. Même acteurs culturels, plus dans une dynamique collective par rapport à un plan d'action.
Mesdames, Messieurs, on a un souci technique avec l'entrevue que nous a accordée Souleymane Jules Diallo depuis Dakar. En attendant de régler la situation, nous allons parler de ce qui s'est passé hier à Québec, hier dimanche, autour de l'événement Art et lutte contre le racisme systémique et le profilage racial. Plusieurs intervenants, des membres de la communauté et des artistes ont été présents hier pour faire passer ce message de tolérance. Désolé. Pour faire passer ce message de tolérance et de solidarité entre les Québécois, venus d'ailleurs, les Québécois qui sont ici depuis des générations, et pour que dans notre société, on puisse vivre dans de meilleures conditions. Oumou, vous avez été présente hier à la manifestation. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Oui, moi j'ai été... parce que j'avais envie d'y être. J'ai trouvé ça super intéressant. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait du monde. La chose, c'est que j'ai trouvé que la communauté noire était peu présente. C'est vrai qu'il y avait une certaine personne, mais qu'il n'y avait pas autant de monde. Donc, c'est la première chose que j'ai trouvée. Après, j'ai trouvé super inspirant toutes les personnes qui ont pris la parole pour dénoncer le racisme. Et aussi tous les artistes qui ont pris la parole pour dénoncer le racisme, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, ce qui est dommage, il y a une femme qui l'a dit, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a dit que c'est dommage qu'en 2021, on doive encore se réunir pour ce genre d'action. Donc voilà, j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de se réunir pour ce genre d'action, mais pour l'instant, on est encore obligé de le faire.
Oui, hier, on a vu défiler tour à tour pour parler Rosine, Ahmed, Webster, Mehdi, le groupe de gospel de Québec avec Ludovic Doubé, Valérie Clio, Plaqui, Ahmed, Rosie Kassongo, Tanobla, Badou, plusieurs membres de la communauté et plusieurs alliés des communautés noires de Québec ont pris la parole. Alors, nous avons recueilli quelques réactions, notamment celle de Mbayadi Mbaï Rewaye, que vous connaissez, notre ami Mbaï, qui a animé cette émission à cette antenne. On va commencer par lui et puis on aura les réactions de Mehdi et de Webster. Racisme systémique et le profilage racial a réuni une centaine de participants. Mbaï Hadji, Mbaï Rewaye, que vous connaissez, notre ami Mbaï qui a animé ce magazine sur cette d'être là. Pourquoi il était important d'organiser cette manifestation?
Il était important d'être à cette manifestation pour deux raisons principales. La première, c'est de revendiquer, de demander à la ville de Québec et à son service de police de reconnaître le profilage racial policier à Québec et de s'engager à le combattre. Telle est la principale revendication derrière le projet de la murale Black Lives Matter et de la fresque sur rue que nous avions fait respectivement à Saint-Jean, au quartier Saint-Jean-Baptiste et au quartier Saint-Roch. La deuxième raison pour laquelle il était important de venir à cette manifestation, c'est de dénoncer les actes haineux à caractère négrophobe qu'on a posés, qui ont été posés cet été à Québec. Il y a 3 actes à caractère négrophobe qui ont été posés, incitant à la violence contre les personnes noires, insultant les personnes noires de sale nègre, etc. Il fallait dire trop, c'est trop. Il fallait sortir massivement pour dire trop, c'est trop. Et envoyer un message de solidarité et d'amour contre le message de haine véhiculé à travers ces graffitis-là. Dans la tradition noire, l'art a toujours été un instrument de lutte qui nous permet de nous ressouder, de nous redonner la joie de se battre, la joie de lutter. Fait que voilà, c'est un peu l'objectif de cette manifestation-là, qui tourne autour des prestations artistiques qui nous ont permis de nous réénergiser, de nous remotiver, de nous booster, si je puis ainsi dire, pour continuer à lutter davantage.
À la fin de la manifestation, Mehdi et Webster nous ont exprimé leurs sentiments sur la journée. Mehdi et Webster nous expliquent d'abord pourquoi est-ce que c'était important pour eux d'être présents à cette manifestation. On va écouter dans l'ordre d'abord Mehdi et ensuite Webster.
C'est important pour moi d'être ici parce qu'elles sont rares les opportunités où on peut parler ouvertement du racisme systémique, mais en même temps, parce que là, même ceux qui voudraient le nier ou qui voudraient le contourner ou chasser le problème sous le tapis, comme on dit, c'est une bonne preuve tangible. Je pense que c'est après même pas 3 jours que la fresque a été taguée, vandalisée, et elle a été 3 fois en moins d'un mois. Donc c'est important pour moi de représenter justement cette œuvre qui a été faite par Wartin Pantois, que je respecte beaucoup, qui a été soutenue par le collectif afro-québécois justement. Donc moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Belgique, je vis au Québec depuis 20 ans, je suis de partout, ça me fait plaisir de pouvoir parler pour ça.
Ah, pour moi, c'est surtout mouvement antiraciste à Québec. Je trouve ça important d'y participer parce que je pense que c'est à travers la collectivité qu'on peut combattre ces inégalités-là, combattre aussi toutes ces discriminations. Donc, je pense qu'on doit jouer le rôle chacun d'une brique dans cet édifice-là. Donc, pour moi, c'est tout naturel de pouvoir participer là.
Pour les populations racisées, le profilage racial n'est pas un mythe, n'est pas une fiction. Encore une fois, Mehdi et Webster nous disent à quel point eux-mêmes ont déjà été confrontés à ce phénomène.
C'est quelque chose que j'ai vécu, que ce soit en Belgique quand j'étais jeune, que ce soit au Québec à multiples reprises, que ce soit quand tu prends l'avion, tu te fais juger, tu te fais mettre dans une soute avec des gens qui ressemblent plus à des terroristes qu'à des citoyens, juste par ton nom. Si je m'appelle Mehdi Alouche, donc c'est sûr que quand on voit ça sur des papiers, des fois ça passe pas à l'aéroport. Mais que ce soit ici dans des festivals, tu te fais arrêter, toi et tous tes copains blancs passent aisément, alors que toi, puisque t'as une gueule d'arabe, on t'arrête. C'est des choses qui sont de plus en plus présentes, surtout pour moi depuis le 11 septembre 2001. C'est à ce moment-là dans la société que la haine et je dirais les préjugés envers les personnes racisées arabes ou maghrébin, donc ça a augmenté à partir de cette date-là. Après ça, ben moi aujourd'hui j'ai 37 ans, donc je l'ai vécu à multiples reprises dans plein de situations.
Oui, bien sûr, j'ai vécu le profilage plus souvent qu'à mon tour. Tous les gens autour de moi l'ont vécu. Donc ce sont des réalités de nos sociétés et le profilage racial et le racisme systémique qui bien sûr vont de pair. Et tant qu'on a des institutions qui ne seront pas capables de le reconnaître, de le regarder en face, ça va continuer. Et puis le fait de les reconnaître, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes, ça ne fait pas de nous une mauvaise société, ça fait seulement une société plus mature qui est capable de regarder ses défauts en face et d'avoir une réelle volonté de réparer ces défauts-là. Parce que si on n'est pas capable de les identifier, de les nommer, comment est-ce qu'on peut s'y attaquer, comment est-ce qu'on peut guérir?
Pour Webster, l'attitude du gouvernement Legault ne participe pas à résoudre le problème.
J'aurais pas dit si je pensais pas ces mots-là. Pour moi, c'est un gouvernement xénophobe qui a fait sa campagne, sa première campagne électorale sur le dos de l'immigration et de réduction des seuils d'immigration. C'est un gouvernement raciste à travers sa non-reconnaissance du racisme systémique, à travers ces mouvements qui sont très mièvres par rapport à la lutte au racisme. Donc oui, j'ai pas peur de le dire, puis je marquais mes mots, fait l'écrire dans la pierre sans problème.
La manifestation Art et lutte contre le racisme systémique et le profilage racial a réuni une centaine de participants. Mbaye Hadji, Mbaye Rewaye, que vous connaissez, notre ami Mbaye qui a animé ce magazine sur cette antenne, était l'un des organisateurs et il nous explique pourquoi il était important d'être là, pourquoi il était important d'organiser cette manifestation.
Il était important d'être à cette manifestation pour deux raisons principales. La première, c'est de revendiquer, de demander à la ville de Québec et à son service de police de reconnaître le profilage racial policier à Québec et de s'engager à le combattre. Telle est la principale revendication derrière le projet de la murale Black Lives Matter.
Mesdames, messieurs, vous êtes sur CKR 81.3 FM. On a quelques soucis techniques ce soir, mais on s'en sort. Alors, on va cette fois-ci se rendre à Dakar pour retrouver Souleymane Jules Diallo. Il nous parle du Festival international panafricain de Nguéror. J'espère que les choses vont être à l'endroit pour la fin de cette émission. Décidément, c'est... pour le temps qui nous reste, vous faire écouter un kaléidoscope de la manifestation d'hier. Plusieurs personnes ont été présentes, plusieurs artistes se sont exprimés, plusieurs acteurs de la vie communautaire ont pris la parole. Nous avons fait un kaléidoscope sonore qui vous donne une idée de ce qu'a été cette manifestation. Je me retourne encore du côté de Brice et j'espère que les choses vont bien aller comme nous l'espérons. On sait. Non, apparemment, on a vraiment des difficultés ce soir. Donc, je vais repasser la parole à Oumu, oui.
Oui, tu n'as pas répondu à la question tantôt, quand je te demandais, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la manifestation d'hier?
Ah oui, d'ailleurs, d'abord, je vais donner une réaction toute personnelle. C'est probablement une question de parcours ou de goût ou d'éducation. Je ne suis pas fan de rap. Mais j'avoue hier que lorsque Webster a interprété sa chanson Idiotie, je me suis surpris à battre le rythme. Alors qu'en général, ce n'est vraiment pas le genre de musique que j'écoute. C'était très émouvant, c'était très beau, c'était très engagé. Et il y a une chose que j'ai particulièrement aimé aussi, c'était le caractère bigarré de la foule. Il y avait des personnes de communauté noire.
La ville de Québec et le service de police de la ville de Québec à reconnaître l'existence du profilage racial policier dans la ville de Québec et aussi pour dénoncer les multiples actes de vandalisme négrophobe qui sont arrivés dans les derniers mois dans la ville. Ces deux éléments ne sont pas déconnectés. En fait, ce sont tous les deux des symboles de l'effacement et des tentatives de contrôle de la présence noire dans la ville de Québec, que ce soit dans l'espace...
réussi à retrouver notre fichier. Je termine mon propos et puis on va donc le relancer. J'étais content de voir que les personnes qui étaient là n'étaient pas forcément les personnes qui subissent le racisme au quotidien, mais bien plus et en très grand nombre de les membres de la communauté blanche. Je ne sais pas toujours comment, s'il faut toujours utiliser ces termes de couleur qui sont désuets, mais il y avait beaucoup de blancs et il y avait une phrase intéressante que j'ai entendue d'un des orateurs qui dit: est-ce que vous pouvez vous sentir en sécurité dans une société qui ne reconnaît pas les injustices, qui met sous le boisseau les problèmes et qui laisse la violence s'exprimer? Et ça, je trouvais que c'était des mots très forts et venant particulièrement de quelqu'un qui ne subit pas ces phénomènes de racisme systémique ou de profilage racial.
Oui, moi, comme je disais tantôt, c'est vrai que tu dis qu'il y avait une population bigarrée, etc. Mais moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait peu de mobilisation de la communauté, des personnes qui sont victimes de racisme. Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses?
Mais ce serait intéressant à étudier, à comprendre. Tu sais, au Mou, lorsque les gens subissent des coups du matin, midi, soir, et puis ils finissent parfois par accepter l'idée que c'est le monde dans lequel on vit et qu'il n'y a peut-être plus grand-chose à faire. C'est même peut-être dangereux que des gens en arrivent à se dire ça ne sert plus à rien de manifester, ça ne sert plus à rien de s'exprimer sur le sujet. Moi, je pense que même c'est dangereux parce que quand on ne s'exprime pas, c'est qu'on garde finira par sortir d'une façon ou d'une autre. Alors, je préfère encore que les gens s'expriment lors des manifestations plutôt qu'ils restent chez eux à ravaler et à ruminer ce qu'ils subissent au quotidien.
Oui, moi, je pense sincèrement que quand il y a des mobilisations à faire, si nous, on ne le fait pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place, surtout si ce sont les personnes racisées qui sont touchées par ça. Moi, je peux comprendre aussi qu'on soit fatigué, etc. Mais tant que ce n'est pas fini, eh ben, si tout le monde arrête, en fait, ben, ça ne va jamais changer les choses. C'est en se levant, c'est en se mobilisant, c'est en mettant des actions en place que je pense que les actions vont vraiment changer.
Alors, on va se retourner du côté de Brice. Et s'il te plaît, mon cher Brice, j'espère que cette fois-ci, on va écouter ce kaléidoscope.
Écoutez, dans un monde où on met sous le tapis et on n'écoute pas, quand l'ordre établi met sous le tapis les problématiques qui sont vécues puis refuse de les reconnaître pour les corriger. Les droits, c'est vraiment une chose qui se défend collectivement. Puis une communauté qui sert à l'écoute, c'est une société qui est plus alerte contre toutes les inégalités. C'est pourquoi les enjeux actuels, selon moi, sont des enjeux qui concernent tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important pour tout le monde de s'engager à faire reconnaître le racisme systémique puis le profilage racial. Donc voilà. Puis si vous ne savez pas par où commencer, déjà d'être ici, je pense que c'est une très bonne chose. Puis ensuite, comme vous pouvez voir, il y a plein de personnes qui sont là pour vous épauler là-dedans. Il y a plein de personnes qui ont parlé aujourd'hui. Il y a des organismes qui sont là pour répondre à vos questions. Il y a plein de ressources qui sont disponibles. Donc, il suffit de faire l'effort d'aller les chercher. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir ensemble une vie démocratique plus riche, puis un monde meilleur pour tous.
Donc, là, passons à la musique. Je pense que c'est quelque chose qui existe, quelque chose pour lequel on doit se battre et continuer à se battre. On est ensemble. La prochaine chanson, cette chanson s'appelle Idiocy. OK. Et on s'en va tout le monde ou quoi? Good, comme ça, check. Écoutez bien. Check. Yo, j'ai lu tes articles, j't'ai entendu à la radio. Déballer des ordures, s'insiper, même les ratos. Tu penses que c'est une icône, mettre une blague, un emoji. À propager des idées connes, théories draves et des mots cheap. Les doigts sur le clavier, recoupés comme des gâchettes. Mitraillés à l'aveuglette afin d'augmenter le cachet. Parce qu'on veut se le dire, c'est la haine et le lucrative. La populace est malléable, quand d'autant plus qu'elle est crédible. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable. Ça racine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur et pour la peur nourrit la haine. Et si le cœur elle s'est fichée, un dur labeur qu'il apprenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le labo. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. cultiver la patience puis grandir, mais sais-tu que tu dis que t'es pas raciste, mais tu détestes les musulmans. Dans tes veines, tu vis la rage comme sur une mousseline. Avant, c'était les noirs, maintenant, c'est les arabes. Depuis septembre, tout en zoant des immigrants et des érables. Tu craches ce que tu penses, tu trouves pas mal game sur les blogs, commentaires, tu fais de faute amalgame. Mais bro, t'as peur, t'as tort, puis t'as peur de la paresse, la torpeur, encore en progrès, ça t'attend. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable, ça racine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, puis la pannerie, la haine. Et si le cœur il s'est figé, dure la peur qu'il apprenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le labo. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer, cultiver la patience, puis grandir.
C'est le solo de contrebasse là, mais il est pas là. C'est comme ça, tout le monde comme ça. Que le Québec n'est pas assez blanc, alors tu t'es rasé la tête, des bottes de cuir et lacets blancs. Peut-être que dans ta vie il n'y avait rien de marquant, vomi la merde, chemise brune, jeune Adrien Arcan. Et c'est fâcheux, maintenant tu trinques les fachos, les tolérances, new fashion, et si le virus t'a fauché, symptôme, le coup de rêve, et l'identité effraie, la maladie du bras tendu, et puis tu tousses, hey, hey. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable, ça racine profondément, quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, puis la peur nourrit la haine, et si le cœur s'est figé, dure la barbe, puis la prenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit, les fertiles, faudrait bien qu'on le labo. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience, puis grandir, mais c'est du cœur. Le love, c'est la réponse, prends une vie pour le répandre. Je pense à Maxime qui avec force gravit la pente. Une main tendue pour ceux qui errent dans les ténèbres. Mes frères, parfois c'est dur quand mon vieux père en traite le nègre. La vérité, ça me donne le goût de tout foutre à l'air. Atteindre le but à coups de pied à la manière de footballeur. Mais quand la haine, elle répond à la haine. Le serpent se prend la queue, on tourne en rond dans une arène. Mais l'idiotie, là aussi sa guérison. Parfois une question épineuse devient une guerre de hérissons. L'empathie produit l'amour et puis l'amour nourrit la vie. C'est au-delà de la tolérance, le sens de l'humanité gravite. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Je le martèle et ça résonne comme si le cœur est un tambour. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Multiplions les occasions, la compassion prend la bravoure. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Le remède c'est l'amour. Le remède c'est l'amour.
Le remède c'est l'amour.
Le remède c'est l'amour.
Le remède c'est l'amour.
Multiplions les occasions, la compassion prend de la bravoure. Merci. 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 Merci à vous. Donc, au final, grande force et courage à nous toutes et tous. Refusons la peur. Refusons l'obscurantisme. On est ensemble.
L'esclave, c'était l'esclavagiste. Parce que lui, il était esclave de surveiller son esclave toute la journée. Mais lui, il était déjà libre dans sa tête. Pendant que l'autre croit qu'il le force à travailler, lui, il chante « Soon, I will be done with the trouble. » Soon I will be done with the troubles of this world. Et vous savez, il y avait dans dans ce champ, il y avait comme ce leader, généralement c'est le plus ancien, qui chante comme ça. Mais le reste, il répond. Quand il dit son, I will be done with the trouble of the world. Oh, soon I will be done with the trouble of the world. Oh, soon, yes, I will be done with the trouble. Word. Attention, il dit, I'm going home to live with God. Alors quand il dit, I'm going home to live with God, ça veut dire que je ne suis plus là, je suis déjà libre, je suis loin. Quand la liberté, l'opportunité arrive, il a saisi, il apprend. Et aujourd'hui, notre industrie musicale, elle est basée sur ça.
Toujours avec plaisir que je vous retrouve pour l'actualité des communautés noires d'ici et d'ailleurs. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci d'avoir été avec nous et je remercie Oumou, je remercie Mama Dani, je remercie Brice pour leur disponibilité. Nous nous disons rendez-vous la fois prochaine. Prenez soin de vous.
Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org. Vous écoutez le magazine Dignité Noire avec Mbayaji Mbayriway. Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org. Poursuivez la réflexion sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Présenté par Mbayaji Mbayriway.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
En cette nouvelle ère de la visioconférence, le Gris Québec est heureux de vous présenter ses ateliers de sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre à distance. Animés par des bénévoles formés issus de la diversité sexuelle et de genre, chaque atelier est une expérience humaine riche en partage et en ouverture. Offrez-en un à votre milieu dès maintenant. Pour plus d'informations, rendez-vous au grisquebec.org.
Les élections municipales approchent.
L'Engrenage Saint-Roch et le CCCQSS en collaboration avec le Centre Jacques-Cartier, monquartier.québec et CKIA-FM te convient à un débat électoral le 14 octobre à 19h au Dôme. Les places sont limitées, mais le débat sera diffusé sur Facebook et au 88.3 FM. Pour participer en personne, appelle au